Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les exactions des milices paramilitaires au Nicaragua. 8 morts hier à Managua. Le premier tour des élections présidentielles en Turquie, nous retrouverons à Istanbul à Kasım Pacha, l'antre d'Erdogan, Clémence Bonfils et Géraldine Alaou. Un pré-sommet à 16 à Bruxelles pour dresser une liste de propositions pour une gestion dans l'idéal apaisé du sauvetage et de l'accueil des réfugiés. Enfin, la face cachée du globe fera escale au Bahreïn où le chef de l'opposition, Shir Ali Salman, a été acquitté jeudi dernier. La marche des fleurs n'a pas eu lieu au Nicaragua, elle a été annulée, enfin suspendue par l'Alliance civique pour la justice et la démocratie. Trop de dangers. Les ONG ont dénombré 8 morts, au moins 8 morts, hier dans l'assaut. Oui, l'assaut donné contre l'Université nationale autonome du Nicaragua à Managua, où étaient retranchés des étudiants. Quelle riposte envisager quand la troupe tire à vue? Une grève générale de 48 heures. L'église nicaraguayenne, elle, apostrophe le clan Ortega et cible implicitement les milices paramilitaires. Bonjour Sarah Maquet.
Bonjour.
Sarah, l'église appelle le gouvernement et les groupes légaux et illégaux, tout est là, à ne plus tirer sur les manifestants. Que sait-on, Sarah, de ces milices paramilitaires qui sèment la terreur?
Alors, au Nicaragua, on les appelle las turbas, traduction la foule ou la tourbe ou le lynchage. Mais turbas, dans les rues de Managua, signifie avant tout aujourd'hui la terreur. Mi-avril débute dans le pays une mobilisation pour demander le départ du président Ortega et de sa femme, Rosario Murillo. Les manifestations font plus de 200 morts en 2 mois. Avec toujours ces mêmes images des civils attaqués et roués de coups en pleine rue ou dans les universités. Voilà le travail de las turbas. Adolescents ou jeunes adultes, casques de moto sur la tête, battes de baseball à la main, ils exhibent des t-shirts siglés de messages de paix ou d'amour avant de frapper. Selon le journal argentin Infobae, las turbas se sont constituées il y a 10 ans, en 2008, alors que des manifestations avaient lieu pour dénoncer une fraude électorale lors d'élections municipales en faveur du Front Sandiniste. Daniel Ortega, héros de la révolution contre le dictateur Somoza, venait alors de revenir au pouvoir après avoir déjà dirigé le Nicaragua de 1979 à 1990. Alors aujourd'hui, difficile de savoir combien sont les membres de las turbas, ni qui sont les autres groupes violents paramilitaires ou parapoliciers. La Commission interaméricaine des droits de l'homme dénonce en tout cas une violence étatique au Nicaragua pour, je cite, « étouffer l'expression de l'opposition politique ». Des représentants de la Commission, de l'Union européenne et du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme devraient prochainement se rendre dans le pays pour enquêter sur cette situation nicaraguayenne.
Merci à vous, Sarah Maquet. 25 frappes aériennes russes hier dans le sud de la Syrie, dans la province de Dera, cette province qui, en juillet dernier, avait fait l'objet d'une médiation entre Moscou, Amman et Washington. Depuis mardi, cette zone dite de désescalade est ravagée par la guerre. Le régime syrien y a positionné quantité de troupes. Damas et ses alliés comptent bien reprendre le contrôle de ces contrées rurales tenues par l'armée syrienne libre. Ces contrées à haute valeur stratégique en cela qu'elles sont traversées par un axe routier majeur qui mène à un poste frontière jordanien et donc à bien des approvisionnements. Hier, l'administration Trump a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas pour aider les effectifs de l'ASL qui s'attendent à une offensive d'envergure. Chaque fois que possible, le président turc Recep Tayyip Erdogan a usé de cette guerre en Syrie pour étoffer le culte de sa personnalité. Lui, le chef de guerre qui restaure l'honneur de l'Empire ottoman, lui, l'impeccable stratège qui tient les frontières de la Grande Turquie, est chahuté par le leader du Parti républicain du peuple, Muharrem İnce. Recep Tayyip Erdogan sera en effet dans quelques heures à quelle réélection s'attendre dès ce soir et de peu, au terme de ce premier tour de scrutin, au second tour, avec quelle majorité au Parlement? Retour aux sources de l'ascension politique d'Erdogan, dans un bureau de vote du quartier d'Istanbul où il a pris son envol, Kasım Pacha. Bonjour Géraldine Alaou.
Bonjour.
Géraldine, qu'est-ce qui se dégage de ce bureau de vote que l'on imagine acquis au président sortant?
Oui, c'est tout à fait ça. Kasım Pacha, Recep Tayyip Erdogan, dispose d'un électorat extrêmement fidèle. À la sortie de ce bureau de vote, on entend d'ailleurs la même rhétorique complotiste que le président turc utilise dans ses discours.
Depuis 16 ans, nous avons un leader fort qui gouverne notre pays. 70% de la population le soutient. Mais il y a des forces étrangères qui interviennent contre notre pays. Les États-Unis, l'Allemagne, Israël. Notre économie va très bien, mais ces forces étrangères essayent de faire croire qu'il y a une crise économique.
Ici, les électeurs d'Erdogan lui vouent un culte sans faille, viscéral, presque irrationnel, comme cette mère de famille qui a voté pour lui, comme toujours.
Nous l'aimons. Il est très fort. Il contrôle tout. Il nous a rendu la vie facile à nous les pauvres.
Mais le président sortant semble s'être aliéné cette fois-ci. Une partie de la jeunesse turque, ce jeune homme, a voté pour Muharrem İnce, le dynamique candidat du CHP, le Parti social-démocrate.
C'est un régime très répressif qui a écrasé nos libertés. Aujourd'hui, il y a un vent de changement. Même si Erdogan gagne, l'opposition s'est considérablement renforcée et c'est un coup qu'on lui a porté.
Mais l'opposition redoute les fraudes et les tentatives d'intimidation. Dans le sud-est du pays, dans les villes d'Urfa et de Suruç, des observateurs des différents partis politiques ont été agressés ce matin et ils n'ont pas pu rentrer dans les bureaux de vote.
Merci à vous, Géraldine Allot, accompagnée que vous êtes de Clémence Bonfils. Vous étiez toutes les deux en direct d'Istanbul. Au nom du droit au retour des Palestiniens sur des terres qu'ils ont fui ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948, des Gazaouis continuent de manifester le long de la frontière avec Israël. Un Palestinien blessé hier par des tirs israéliens a succombé à ses blessures ce matin. Sommaire chargé pour les 16 chefs d'État et de gouvernement attendus cet après-midi à la Commission européenne. Sommaire que nous pourrions résumer ainsi. Ne pas heurter le Sud, faire en sorte de reprendre langue à terme avec le groupe de Visegrad, tirer d'affaire la chancelière allemande malmenée par sa droite et, seulement cela, refondre de fond en comble la politique européenne d'accueil des réfugiés. Ne pas heurter le Sud et, en premier lieu, l'Italie. C'est une correspondance de Rome d'Antonino Gallofaro.
L'Italie se présente à Bruxelles avec une ligne radicale sur l'immigration. Ses ports sont toujours fermés. Le bateau Lifeline, avec 239 migrants à bord, ne sait toujours pas où amarrer. En demandant à Malte de les accueillir, Rome savait qu'elle ferait face à un refus à travers La Valette. Elle voulait défier l'Europe en la mettant face à ses responsabilités. L'Italie, depuis des années, se sent abandonnée. Il semble que cette fois, elle ne cédera sur rien. À Bruxelles, la péninsule veut pousser pour l'accueil des migrants sauvés en mer dans d'autres ports, mais aussi pour la révision du système de Dublin qui impose à l'immigré de demander l'asile dans le pays de premier accueil. Cette position est portée par le Premier ministre Giuseppe Conte, inaudible car sa voix est dépassée par celle de Matteo Salvini. Le ministre de l'Intérieur et toujours chef du parti d'extrême droite, la Ligue, défend avec virulence sa ligne sur l'immigration. La proposition franco-espagnole d'ouvrir des centres fermés sur le sol européen transformerait, selon lui, l'Italie en camp de réfugiés de toute l'Europe. Même en nous donnant quelques euros de pourboire, Emmanuel Macron n'a rien compris, lui a répondu hier le ministre de l'Intérieur, l'accusant d'arrogance. D'autant plus qu'ouvrir de nouveaux centres fermés dans chaque région de la péninsule pour accélérer les renvois fait déjà partie du contrat de gouvernement signé avec son allié, le mouvement 5 étoiles.
Vous venez de le souligner, Antonio, le navire humanitaire Lifeline, donc affrété par une ONG allemande, croise toujours dans les eaux internationales. Au large de Malte, les autorités maltaises ont livré hier de la nourriture et des couvertures pour les 230 réfugiés. À quel flux migratoire est confrontée véritablement l'Europe? Élément de réponse avec vous, Mathilde Dehimi.
C'est l'agence de l'ONU, l'Organisation internationale pour la migration, qui fournit ces chiffres. 40 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée depuis le début de l'année, soit deux fois moins que l'an dernier sur la même période. Si l'on compare cette fois avec l'année 2016, ils étaient 215 000 venus essentiellement de Syrie, d'Afghanistan ou du Sud-Soudan. En parallèle, le nombre de noyés en mer a lui aussi diminué. Un nombre d'arrivées en forte baisse que confirme Jean-François Corti, directeur des opérations internationales à Médecins du Monde. En Calabre, où l'association intervient, les arrivées ont été divisées par 5, dit-il.
Le flux migratoire tel qu'il nous est présenté comme étant potentiellement une vague d'invasion est une vue de l'esprit, est un mensonge politique. Et aujourd'hui, on a affaire à l'Europe qui propose un projet répressif plutôt que d'être dans une logique de solidarité entre les pays européens dans un contexte où il n'y a pas d'invasion massive. Il y a eu ces propositions de hotspot en Italie et en Grèce dans le cadre des accords qui ont suivi des réadmissions où l'Europe était censée être solidaire de ces pays, ce qui n'a pas du tout marché il y a quelques années. On sait que le temps et la durée des traitements de dossiers peut être très variable, encore une fois, selon les centres, selon les moyens. Ce n'est pas une approche qui, de notre point de vue, est la plus adaptée pour aider, protéger ces personnes qui sont déjà dans une grande souffrance.
Des centres fermés que l'Autriche et le Danemark verraient bien aux portes de l'Union européenne et non dans le pays de débarquement, comme le proposent la France et l'Espagne, comme en Turquie et au Niger aujourd'hui, qui reçoivent des fonds européens importants pour maîtriser les passages. Le retour dans le pays d'origine que l'OIM met en place a, lui, toujours beaucoup de mal à convaincre.
Mathilde Dehimi, il est presque 12h40 et vous écoutez le journal de France Culture ainsi que la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. C'était le premier face-à-face depuis 2 ans entre le président du Soudan du Sud et le chef de l'opposition armée. La rencontre a eu lieu mercredi en Éthiopie, mais passé l'accolade entre les deux frères ennemis, le gouvernement de Salva Kiir a considéré que le chef rebelle Riek Machar n'avait pas sa place dans un gouvernement d'union nationale et devrait attendre les élections s'il veut un jour être président. En clair, il n'y a pas eu de compromis sur le partage du pouvoir. Une autre rencontre est toutefois prévue demain à Khartoum. Depuis 2013, soit 2 ans après son indépendance, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile. Un phénomène inédit pour l'Albanie, l'arrivée de migrants venus du Moyen-Orient, principalement de Syrie. Certains ont déjà fait une demande d'asile, d'autres ne cachent pas qu'il s'agit d'une escale. L'Albanie, connue plutôt pour son émigration massive, a reçu près de 200 migrants et affirme en avoir bloqué 2300 à la frontière depuis janvier. Accusé d'intelligence avec le Qatar, un chef de l'opposition du Bahreïn, Sheikh Ali Salman, a été acquitté jeudi. Il est à la tête du parti qui a porté les revendications de la majorité chiite de l'Émirat. Ce geste doit-il être interprété comme une ouverture? Antoine Madelin reste prudent. Il est directeur du plaidoyer international à la FIDH, la Fédération internationale pour les droits de l'homme.
Je pense que les autorités bahreïnies ont compris que si elles voulaient organiser des élections qui avaient un minimum de crédibilité au niveau international, elles devaient certainement arrêter et suspendre les poursuites totalement infondé contre les dirigeants d'Al Wifaq. C'est probablement un geste d'apaisement, mais nous restons préoccupés en tous les cas par le fait que, d'une part, le dirigeant d'Al Wifaq, Sheikh Ali Salman, reste emprisonné sur d'autres charges, et que plus largement, d'autres partis politiques n'ont pas aujourd'hui la possibilité de développer et de déployer leur activité militante.
Dissolution des partis contestataires, emprisonnement de dissidents, la répression est régulièrement pointée du doigt par les ONG et prend parfois de nouvelles formes.
Les autorités bahreïnies sont aux abois. C'est comme ça que nous lisons la multiplication de la répression. On a vu, au-delà même de l'interdiction de certains partis politiques, des mesures particulièrement préoccupantes concernant la déchéance de nationalité de personnes en raison certainement de leur expression publique, de leur opposition au gouvernement. Elles ont été en plus accompagnées de campagnes de nationalisation d'autres personnes pour des raisons de leur obédience sunnite. Ce sont des tendances et des politiques particulièrement inquiétantes aujourd'hui.
Que reste-t-il des manifestations, des revendications de la majorité chiite du Bahreïn?
Une très large majorité de la population bahreïnie, au-delà de son obédience chiite, est particulièrement préoccupée. Si les autorités ont pu réduire au silence l'expression de ces voix, elles restent néanmoins extrêmement mobilisées et actives. On le voit notamment sur les réseaux sociaux où il y a des très larges campagnes en soutien aux défenseurs des droits de l'homme, où il y a de très larges campagnes en soutien de la liberté d'expression et qui sont autant de signes d'une population avide de réclamer et d'obtenir ses droits. Nabil Rajab, qui est secrétaire général de la FIDH, a été poursuivi et condamné pour des tweets, par exemple, qui dénoncent la guerre au Yémen, des tweets particulièrement simples et enfantins qui demandent que la coalition ne vise pas les enfants dans la crise yéménite. Ils sont aujourd'hui empêchés de travailler, empêchés de s'exprimer et derrière les barreaux.
Antoine Madelin, de la FIDH. Distribuer aux pauvres des bidonvilles de Jakarta ce qui reste des banquets de mariage des riches. L'initiative a été lancée par des associations locales. Chez les Indonésiens fortunés, une des pratiques consiste à convier un maximum d'invités qui ne confirment pas tous leur présence. Du coup, les victuailles non consommées sont jetées, d'où la création de ces banques alimentaires en direction des quartiers pauvres. Une association internationale d'économistes affirme que l'Indonésie est le deuxième pays au monde qui gaspille pays le plus de nourriture après l'Arabie Saoudite. Les États-Unis, eux, arrivent en troisième position. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, 30% environ de la nourriture produite chaque année dans le monde est jetée ou gaspillée, soit un peu plus d'un milliard de tonnes pour une valeur de 1000 milliards d'euros.
À bientôt et merci à vous, Nabila Hamel. Encore du soleil partout aujourd'hui en France, selon Météo France. De faibles risques d'orage toutefois sur le sud-est. Température maximale comprise dans l'après-midi entre 23 et 29 degrés. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili à la technique Jean-Frédéric.